Il est maintenant 9h à Port-au-Prince, 13h temps universel, 15h à Paris.
RFI Midi.
Charlotte Idrac.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Dans un instant, retour sur le sacre de Donald Trump. Hier, à la clôture de la convention républicaine, l'ancien président américain a repris ses thèmes favoris. Il a aussi lancé un appel à l'unité. Au cœur de la guerre des gangs en Haïti, un documentaire exceptionnel tourné à Port-au-Prince où certains quartiers sont sous la loi des groupes armés, de véritables zones de non-droit. On en parlera avec l'un des auteurs du film, notre confrère Roméo Langlois. À suivre aussi l'actualité des Outre-mer. Avec vous, Benoît Ferrand, tout à l'heure, on ira notamment en Guyane.
Avec le Conseil d'État qui donne un an à une société minière pour se mettre en conformité avec les réglementations environnementales, une victoire en demi-teinte, nous dira tout à l'heure un représentant de Guyane Nature Environnement.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et d'abord, votre journal, Sophie Pouzrat.
Oui, à la une, Charlotte, une gigantesque panne informatique mondiale paralyse de nombreuses entreprises partout dans le monde. Le géant de la tech américain Microsoft est lui aussi affecté. Il a affirmé prendre des mesures d'atténuation le temps de régler le problème. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Et que sait-on de cette panne ?
Bien écoutez, il s'agirait probablement d'un problème dû à la mise à jour d'un virus informatique du groupe américain CrowdStrike affectant Windows et un grand nombre de ses utilisateurs. Les conséquences, elles, sont mondiales. Plusieurs avions ont cloué au sol, notamment aux États-Unis où les choses semblent rentrer dans l'ordre, notamment à l'aéroport Dulles de Washington. Il y a tout de même eu dans tout le pays plus de 1000 vols annulés et 1700 retards. Des perturbations aussi aux aéroports d'Israël, de Zurich, de Berlin, d'Amsterdam, Schiphol, mais aussi à Roissy et à Orly, les deux aéroports parisiens, avec le risque d'un retard pour l'arrivée des délégations étrangères qui doivent participer aux Jeux Olympiques. Le comité d'organisation dit avoir aussi subi des perturbations. Tous les serveurs informatiques ont été touchés, mais ces organisateurs ont probablement évité un scénario catastrophe à une semaine du début de l'événement. Les derniers réglages sur les sites, notamment les montages des structures, continuent normalement sans risque sur les délais, précise-t-on au comité d'organisation des JO.
Merci beaucoup Anne Verdaguer. Et l'aéroport de Zurich en Suisse indique que tous les avions peuvent de nouveau atterrir. Et de son côté, le fabricant CrowdStrike assure que le problème à l'origine de cette panne mondiale est en cours de correction. La sentence est tombée en Russie il y a moins d'une heure pour le journaliste américain Evan Gershkovitch. Il écope de 16 ans de prison pour espionnage au terme d'un procès expéditif à huis clos, Julien Colligne.
Comme le rappelait dans la foulée du verdict les médias indépendants russes, il s'agit d'une des sentences les plus sévères de ces 10 dernières années dans les affaires d'espionnage en Russie. Voilà donc Evan Gershkovitch, condamné à 16 ans de détention. C'est 2 années de moins que ce qui avait été requis ce matin par le procureur. Mais détail important, c'est une peine qui devra être purgée dans une colonie pénitentiaire à régime sévère, c'est-à-dire aux conditions de détention plus rudes que dans les colonies habituelles. Ce matin, lors de la dernière audience sur le fond, le reporter du Wall Street Journal a une nouvelle fois clamé son innocence et rejeté officiellement l'accusation d'espionnage. Ce dénouement arrive en tout cas après une fulgurante accélération de la procédure ces dernières semaines. Là où l'audience de ce matin devait initialement avoir lieu au mois d'août, elle a été largement avancée, donc tout comme le prononcement du verdict. Ainsi, seulement 2 petites audiences sur le fond et 1 seul témoin à charge auront été nécessaires à la cour pour déclarer Evan Gershkovitch coupable, le tout dans un procès dénoncé depuis le début comme une parodie et comme une coquille vide par ses proches et par les autorités américaines. Un motif d'espoir peut-être néanmoins, comme le rappelait ce vendredi un avocat russe proche de l'opposition, le côté expéditif de l'affaire pourrait receler une bonne nouvelle. Cela pourrait vouloir dire que les discussions sur un éventuel échange du prisonnier américain sont en bonne voie ou quasiment achevées. L'affaire Gershkovitch est donc encore loin d'être terminée. Julien Colling, Moscou, RFI.
Et détenu depuis 16 mois, Evan Gershkovitch avait été arrêté en mars 2023 alors qu'il était en reportage dans la région de l'Oural, puis poursuivi dans cette affaire d'une gravité inédite pour un journaliste étranger depuis la fin de l'URSS. Reporters sans frontières a réagi à cette condamnation et la qualifie, je cite, de prise d'otage. En parallèle, la Russie poursuit son offensive en Ukraine. Moscou revendique aujourd'hui la prise d'un village dans l'est du pays. L'armée russe poursuit donc sa lancée vers la ville de New York, déjà sous le feu de bombardements intenses. La frappe qui a fait un mort à Tel Aviv, revendiquée par les rebelles houthis du Yémen, soutenue par l'Iran, allié du Hamas, il menace de faire de la ville une cible principale. Et de son côté, l'État hébreu jure de faire payer les responsables. Il indique que c'est un très grand drone capable de parcourir de longues distances qui a été utilisé dans l'attaque en déjouant le système de sécurité israélien. Tout ça alors que le conflit fait toujours rage entre Israël et le Hamas dans l'enclave palestinienne de Gaza. Et par ailleurs, l'armée israélienne affirme qu'il y a, je cite, de plus en plus de signes laissant présager que le chef de la branche armée du Hamas a été tué dans une frappe la semaine dernière dans la bande de Gaza. Ces derniers jours, le Chili a été frappé par une vague d'assassinats qui a choqué la population peu habituée à de telles violences si soudaines. En l'espace de 72 heures, une quinzaine de personnes ont été tuées par balles à différents endroits de la capitale et ses alentours, dans deux cas il s'agit même d'homicides multiples avec plusieurs victimes, dont des mineurs. Le plus jeune avait 13 ans. Les autorités et des experts estiment que ces affaires sont indépendantes les unes des autres, mais liées au crime organisé qui gagne du terrain dans le pays. À Santiago, les précisions de notre correspondante Neila Dorouane.
C'est le président chilien Gabriel Boric lui-même qui l'a dit.
Ces derniers jours, nous avons vu une recrudescence des actions du crime organisé avec des vendettas et des attaques.
C'est en effet souvent le même scénario qui s'est répété. Un homme armé sort d'un véhicule et abat sa cible, ou alors des coups de feu sont tirés en pleine voie publique. Un modus operandi similaire à celui des bandes criminelles organisées, explique Pia Green, chercheuse à l'université de San Sebastián.
Ces éléments sont des pistes qui nous indiquent que nous sommes face au crime organisé avec des tueurs à gages ou des situations de règlement de compte.
Selon elle, ce type de criminalité au Chili trouve sa source dans le narcotrafic.
Nous sommes proches géographiquement des quatre plus grands pays producteurs de drogue au monde. Auparavant, le Chili était plutôt un pays de transit pour la drogue, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes aussi consommateurs et même producteurs de drogue.
Et en réaction aux nombreux assassinats de ces derniers jours, le gouvernement a annoncé plus de policiers en patrouille dans la capitale, mais aussi davantage de contrôle pour les étrangers, car certains attribuent cette violence à des bandes criminelles venues de pays voisins et qui ont passé la frontière clandestinement. Le Chili reste encore en Amérique latine l'un des pays avec le taux d'homicide le plus bas de tout le continent. Neila Dorouane, Santiago, RFI.
Des violences aussi au Bangladesh. Un nouveau bilan évoque 50 morts dans les affrontements pendant les manifestations étudiantes qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Et on l'a appris il y a quelques minutes, la police indique que des manifestants envahissent une prison et libèrent des centaines de détenus. Plus tôt cette journée, elle déclarait aussi avoir arrêté une des figures de l'opposition. Hier, les autorités ont accusé les manifestants d'avoir incendié le siège de la télévision publique, BTV et Internet, et coupé depuis plus de 24 heures dans le pays. Le mouvement de protestation a démarré début juillet contre un système de quotas mis en place dans la fonction publique. Et au fil des jours, la situation s'est tendue jusqu'à se transformer en véritable crise. Et c'est un défi majeur pour l'administration autocratique de la première ministre, Sheikh Hasina, qui gouverne depuis 15 ans. Elle est accusée par les opposants de vouloir éradiquer toute dissidence. Au Vietnam, à présent, le secrétaire général du Parti communiste, Nguyen Phu Trong, considéré comme le dirigeant le plus puissant du pays, est décédé ce vendredi, à l'âge de 80 ans, selon un média d'État. L'annonce intervient au lendemain du retrait de l'homme fort du régime pour raison de santé et de la prise en charge par intérim de la fonction de secrétaire général du PC par Tô Lâm, jusqu'ici président du parti. On part sur le Tour de France à présent, il en est à sa 19e étape, l'étape Rennes entre Embrun et Isola 2000. Et on vous retrouve sur la route de la Grande Boucle, Thomas de Saint-Léger, les coureurs approchent du toit du Tour.
Oui, Sophie, la route la plus haute de France, la cime de la Bonnette, 2803 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils y sont dans quelques 500-600 mètres. Ils sont pour l'instant sur une chaussée très étroite qui serpente autour de paysages lunaires. Et un petit peu partout, nous avons de petites grappes de coureurs qui se battent avec leur machine, avec la pente, avec une fréquence cardiaque qui s'accélère. À cette altitude, l'effort est violent. Et chacun est à sa place avec ses jambes du moment, ses jambes du jour. Devant, nous avons 5 coureurs échappés. Il y a Richard Carapaz, l'équatorien, qui a déjà gagné sur ce Tour de France. Et puis surtout, 2 coéquipiers de Jonas Vingegaard, ce qui pourrait vouloir dire que le Danois, le deuxième du classement général, a des idées derrière la tête. Il pourrait s'en servir, pourquoi pas, comme point d'appui s'il décidait d'attaquer plus tard. Pour l'instant, il est bien calé dans la roue du maillot jaune. Tadej Pogacar, groupe maillot jaune, pointé à 3 minutes 40 des échappés. Il reste 5 56 km, la descente sinueuse, périlleuse de la Bonnette. Et puis l'ascension finale vers Isola à 2000. Un mot très rapide de notre maillot vert, Binyam Girmay. Il a assuré mathématiquement son maillot, mais attention, il est pointé à 18 minutes de la tête de course. Il faut rentrer dans les délais.
Thomas de Saint-Léger en direct de la route du Tour de France.
Et on vous retrouvera bien sûr à l'arrivée. Merci à vous, Sophie Bouzrat.
Le journal d'Haïti et les Amériques. RFI.
Donald Trump, superstar de la convention républicaine hier aux États-Unis, célébré par ses supporters.
But what happened last week when they took a shot at my hero? And they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again.
Voilà, enthousiaste hein, ce partisan, alors que l'ancien président américain a accepté sa nomination comme candidat pour la présidentielle américaine. Lors d'un discours d'une heure et demie, il s'est exprimé. Donald Trump, c'est un record pour ce genre d'événement. Et la soirée a été l'occasion pour l'ancien président de mettre en spectacle sa popularité, sa mainmise aussi sur le parti républicain. Abla Junaidi, on vient de l'entendre, la Trump-mania était à son maximum hier soir à Milwaukee.
Oui, Charlotte, et la voix qu'on entendait pour information, c'est celle du célèbre catcheur pro-Trump Hulk Hogan hurlant au retour de la Trump mania, la folie Trump en français. Un culte du chef parfaitement assumé tout au long de la convention. D'abord avec la mise en scène de la famille Trump entourant leur héros qui a survécu à une tentative d'assassinat. On a vu la belle-fille et co-présidente du parti, Lara Trump, s'exprimer à la tribune. On a enfin revu en public Melania et Ivanka hier, l'épouse et la fille de l'ancien président, dans l'ombre ces derniers mois.
Il faut dire que la famille Abla, c'était un leitmotiv.
C'est même une valeur revendiquée par le Parti républicain, aux côtés d'autres thèmes devenus centraux depuis que Trump est aux manettes, comme l'immigration illégale vue comme une menace existentielle. Sur ce thème, l'ancien président a repris ses accents catastrophistes et son éternelle référence cinématographique à Hannibal Lecter, le tueur en série cannibale du film Le silence des agneaux, pour discréditer la politique migratoire du camp démocrate.
He'd love to have you for dinner.
Il adorerait vous avoir pour dîner. Il vide les asiles de fous, des terroristes en nombre comme on n'en a jamais vu débarquent. Des choses terribles vont arriver et le taux de criminalité explose par rapport au reste du monde parce qu'ils envoient leurs criminels ici, dans notre pays.
Revenons longuement sur l'épisode de sa tentative d'assassinat. Donald Trump a terminé son récit comme ceci.
God on my side. I felt that.
J'avais Dieu avec moi. Dieu, un mot qu'il a répété à de nombreuses reprises, Abla.
Oui, y compris lorsqu'il a appelé à l'unité nationale après être revenu sur cette explosion de violence qui a failli lui être fatale samedi dernier. Mais tout en appelant à faire baisser la tension, Donald Trump n'a pas pu s'empêcher de jeter une pique au camp adverse.
Les démocrates devraient arrêter d'instrumentaliser le système judiciaire et calomnier les opposants politiques en les traitant d'ennemis de la démocratie. Surtout que c'est faux et qu'en réalité, je suis celui qui sauve la démocratie pour notre peuple.
Voilà, moins énergique que d'habitude, marqué peut-être par l'événement de samedi dernier, Donald Trump sera parvenu cette semaine à faire l'union autour de lui, le chef incontesté du Parti républicain.
Abla Junaidi, cette convention républicaine à Milwaukee qui est donc maintenant terminée et qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Antoine Gallen, c'est à la une des journaux américains.
Oui, dans un éditorial, le New York Times titre « Trump the Lion or Trump the Lion », traduction Trump le lion, en référence à sa chevelure, parfois considérée comme une crinière, ou Trump le menteur. Pendant la convention, son fils, Donald Jr., a déclaré que son père avait affronté la tentative d'assassinat du week-end dernier avec le cœur d'un lion. Pour le sénateur républicain Tim Scott, le diable est venu en Pennsylvanie avec un fusil, mais un lion américain s'est relevé et a rugi. Le journal rappelle que le lion symbolise Jésus dans le christianisme. Et justement, les références à la religion pullulent chez le candidat républicain, un discours qui trouve un large écho dans un électorat trumpiste qui le voit parfois comme le sauveur. L'éditorial fait aussi référence aux Chroniques de Narnia, une série de romans de fantasy écrits dans les années 50 où le lion apparaît dans chaque livre, sauf que le New York Times précise qu'à la fin de Narnia, c'est bien le bien qui l'emporte sur le mal. Je cite « Rien à voir avec le lion Donald Trump, un menteur et criminel chronique, tenu également pour responsable d'abus sexuels. »
La suite de votre revue de presse, Antoine Gallen, vous nous emmenez au Venezuela. À l'approche de l'élection présidentielle, la répression de l'opposition continue.
Dans Efecto Cocuyo, on peut voir deux véhicules de l'ex-candidate de l'opposition, Maria Corina Machado, taguées, vidées de leur huile de moteur et les freins coupés. Edmundo González, son remplaçant, après qu'elle ait été déclarée inéligible, a dénoncé des intimidations d'une lâcheté intolérable. La campagne est rythmée par les arrestations, 102 depuis le début de la campagne il y a tout juste 15 jours. El Periodiquito a indiqué qu'hier soir, le chef de sécurité de la campagne avait été libéré de prison. Maria Corina Machado a tenu à remercier tous ceux qui, par leur soutien, avaient rendu possible ce premier pas vers le renversement de cette injustice. El Nacional rapporte la mise en garde du groupe IDEA composé de 30 anciens chefs d'État d'Amérique et d'Espagne contre le climat de répression au Venezuela à l'approche des élections. Prochain événement de campagne, demain, dans la ville de Maturín, c'est dans le nord-est du pays. Les deux camps organisent un rassemblement sur la même avenue avec leurs partisans.
Au Pérou, la justice prolonge de 18 mois la détention préventive de l'ancien président Pedro Castillo. Il est accusé d'avoir voulu perpétrer un coup d'État en décembre 2022.
Oui, à l'époque, il avait annoncé dans un message à la nation la dissolution du Parlement et la convocation d'une assemblée constituante. Expresso indique qu'il est accusé de rébellion et que le parquet a requis 34 ans de prison à son égard. Le tribunal a donc accepté la prolongation de sa détention réclamée par le ministère public. D'après El Comercio, le pouvoir judiciaire a pris cette décision face au risque de fuite. De son côté, Pedro Castillo nie les accusations portées contre lui. Après son limogeage, Dina Boluarte avait assumé la présidence.
Antoine Gallen, votre revue de presse des Amériques, à retrouver sur RFI.fr avec un bonus, cette histoire au Brésil, des pluies diluviennes qui ont causé des inondations historiques, ça c'est l'aspect négatif dans le sud du pays, mais qui ont aussi dévoilé un fossile de dinosaure qui date d'environ 230 millions d'années, à découvrir donc sur RFI.fr.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et sur le site de RFI également, c'est un document rare à visionner dès maintenant. Ça s'appelle « Haïti, la loi des gangs ». 52 minutes d'un documentaire exceptionnel tourné à Port-au-Prince. On y voit ces zones de non-droit, des civils meurtris par la violence, la police prise sous le feu des groupes armés et les chefs de gangs qui montrent les muscles. Film réalisé par nos confrères Roméo Langlois et Catherine Norris-Trent, nos confrères de France 24. Roméo Langlois en parle avec Vincent Sorio.
On a mis pas mal de temps à préparer le tournage, à appeler des gens en Haïti parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On sait qu'il y a un problème gravissime de kidnapping, d'enlèvement contre rançon qui est une véritable industrie dans ce pays. On sait que les Blancs sont très souvent ciblés par l'enlèvement contre rançon. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de prises de contact avant de partir pour essayer d'imaginer un peu ce qu'on pouvait faire sur place. Parce que si c'était pour aller là-bas et en fait passer 15 jours dans des quartiers qui étaient totalement sécurisés, c'était pas forcément très intéressant.
Qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas ?
Évidemment rencontrer les gangs, puisque ce sont eux qui détiennent une grande partie du territoire. Ce sont eux qui ont précipité Haïti dans la spirale de violence dans laquelle elle s'enfonce. On voulait évidemment rencontrer les politiques. Ce sont eux qui sont à l'origine du développement des bandes armées. Et évidemment, on voulait surtout passer un maximum de temps avec les civils, avec tous ces gens qui essaient de continuer à vivre si possible normalement dans une capitale où des chefs de guerre en pick-up avec des armes font la pluie et le beau temps.
Dans le film, on voit que vous avez réussi à rencontrer plusieurs de ces chefs de gang, y compris certains d'entre eux qui sont recherchés par le FBI, hein, c'est assez impressionnant. Pourquoi, selon vous, vous ont-ils reçu ? Pourquoi ils ont envie de communiquer ?
Alors, ils ont envie de communiquer, je pense, parce qu'ils sont à un moment où ils vont essayer de négocier quelque chose avec les autorités actuelles. Ils veulent montrer que ce ne sont pas que des criminels. L'un des chefs de gang qu'on a rencontré se fait appeler le caporal Tilapli. Il nous explique que dans sa zone, l'État, c'est lui. que quand des gens ont besoin d'un sac de farine parce qu'ils n'ont plus rien à manger, très souvent, eh bien, c'est lui qui intervient. Il joue un peu le parrain. Alors évidemment... C'est un engage que lui. Et ce sont des gens qui sont avant tout des criminels. Il y a des exactions qui sont documentées, qui sont généralisées de la part de tous les gangs. Mais des exactions qui sont aussi commises parfois par la police, par des milices armées qui sont du côté du gouvernement. L'un des grands drames de ce pays, c'est l'impunité. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a pu rencontrer ces chefs de gang. Ces personnes-là ont l'impression qu'elles peuvent continuer à se comporter comme ils le font, et ils se considèrent vraiment comme les chefs sur leur territoire.
Roméo Langlois, qui a donc tourné ce film avec Catherine Norris-Trent, Haïti, la loi des gangs, à retrouver sur RFI.fr. On retrouve maintenant Benoît Ferrand. Vous êtes de nouveau en ligne avec nous pour le journal La Première des Caraïbes. Et donc, vous nous le disiez tout à l'heure, on part en Guyane où le Conseil d'État donne un an à la société Eau Plata pour se mettre en conformité avec les réglementations environnementales.
Le groupe minier a été épinglé pour 3 de ses sites d'extraction dont les concessions d'exploitation ont été prolongées sans étude d'impact préalable. Une victoire donc, mais une victoire en demi-teinte pour les associations qui avaient porté l'affaire en justice. Écoutez la réaction de Nolwenn Roca de Guyane Nature Environnement. Il est au micro de Mélodie Nourry.
C'est une victoire en demi-teinte parce qu'on a demandé au juge de s'intéresser à l'exploitation passée du pétitionnaire au Plata Mining Group sur ses concessions. Parce que pour avoir une exploitation bonne et due forme, il faut respecter les normes réglementaires en vigueur. Et là, typiquement, ce pétitionnaire, il est en retard sur des réhabilitations. C'est 370 hectares qui correspondent à environ 500 terrains de football. Donc, ces déforestations qui n'ont pas été réhabilitées posent vraiment question sur le plan environnemental. Le Conseil d'État leur dit qu'il faut 12 mois pour saisir l'autorité environnementale pour régulariser. Au bout d'un an, le Conseil d'État va être ressaisi. Il va vérifier que l'avis de l'autorité environnementale ait bien été pris. Et ensuite, comme nous, on lui a demandé de juger sur le fond, il va prendre les éléments de cet avis pour se prononcer sur l'impact environnemental de cette société. Et en fait, comme la prolongation des concessions entraîne la prolongation de l'autorisation d'exploitation qui existe déjà depuis 2017. Et du coup, il faut vérifier que les différents intérêts économiques et environnementaux soient bien proportionnés vis-à-vis des avantages donnés de cette exploitation.
La campagne sucrière 2024 s'achève demain en Guadeloupe et ce n'est pas une campagne dont les agriculteurs et les industriels garderont le meilleur souvenir. Tonnage en baisse, richesse en sucre de la canne en chute libre, le démarrage tardif de la récolte et des conditions météo défavorables vont coûter très cher cette année à la filière. Chantal Horn.
La richesse moyenne de la campagne en cours est à ce jour de seulement 6,17, moins 27%. Pire, sur les derniers jours, soit du 8 au 15 juillet, en moyenne, les richesses sont de seulement 4,84 et les puretés de 74,54. Avec ce démarrage bien trop tardif, le rendement sucrier tel quel de Gardel est le plus mauvais jamais atteint, avec un taux de 5,53%, soit 5,53 tonnes de sucre fabriqué pour 100 tonnes de canne broyée, alors que la moyenne des 10 dernières années est de 9,40%, soit une baisse de rendement de 41%. À ce jour, c'est 264 500 tonnes de canne qui ont été livrées à Gardel et 14 600 tonnes de sucre qui ont été produites. Les pertes pour l'unité sucrière et toute la filière sont abyssales et fortement préjudiciables pour son avenir.
Bon après-midi, Charlotte. Bon week-end. À lundi.
À lundi. Merci à vous, Benoît Ferrand.
Uno, dos, tres, cuatro.
RFI Midi.
Et on continue comme tous les vendredis notre voyage à travers les États-Unis jusqu'à la présidentielle américaine du 5 novembre. Nous sommes avec les auteurs du livre Rock and Road Trip, les États-Unis en 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming. Lorik Henton, il répond à Julien Coquel-Rouen.
Voilà qui est plutôt poignant pour commencer cette chanson American Skin.
Oui, le sujet s'y prête. Hein. Aujourd'hui, pour évoquer les violences policières, je vous propose de remonter 20 ans avant la mort de George Floyd à Minneapolis, en mai 2020. Nous sommes en février 1999 et un immigré guinéen du nom d'Amadou Diallo, 23 ans, est abattu par la police qui tire à 41 reprises.
D'où les 41 shots comme sous-titre de ce morceau de Bruce Springsteen.
41 shots, Lena gets her son ready for school.
She says on these streets, Ja rules. You've got to understand the rules.
Loric, qu'avait fait Amadou Diallo pour s'attirer ce sort ?
Rien sinon être noir la nuit dans le Bronx. Il sort un portefeuille, les policiers qui cherchaient un violeur en fuite ont cru que c'était une arme et l'ont abattu. Springsteen part de cette affaire pour mettre en scène une mère de famille qui explique à son fils noir quelle conduite tenir si la police lui pose des questions. Rester poli, ne pas s'enfuir, garder ses mains bien en vue pour éviter tout malentendu fatal.
Et comme c'est une tragédie récurrente, on peut imaginer que la chanson a servi plusieurs fois ensuite, hélas.
Et en effet, Springsteen la joue en 2012, après la mort de Trayvon Martin en Floride, puis après l'acquittement de son meurtrier George Zimmerman l'année suivante. Il la joue ensuite après le meurtre de George Floyd en juin 2020. Et elle est ensuite reprise par d'autres artistes, y compris des artistes noirs.
Dans la génération précédente, la conscience de l'Amérique, c'était Bob Dylan.
Après une série d'hymnes au début des années 1960, dans le cadre du mouvement pour les droits civiques, Dylan met au repos sa plume pamphlétaire, mais elle reprend du service au milieu des années 70 avec ce qui reste peut-être sa protest song la plus puissante. Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all.
Hurricane 1976 sur l'album Desire. De quoi est-il question cette fois ?
Alors pas d'un assassinat, hein, mais presque. Une tuerie dans un bar du New Jersey en 1966, une enquête menée en dépit du bon sens et un coupable bien pratique. Reuben Carter dit The Hurricane, l'ouragan, un boxeur noir promis un bel avenir.
Mais un avenir qui passera surtout par la casse prison.
Alors le dossier est plus que mince, mais la culpabilité de Carter semble arranger tout le monde. En prison, Carter écrit son autobiographie et l'adresse à Dylan, qui est touché, lui rend visite et s'empare de sa cause.
Est-ce que la chanson a un impact, Loric, le dossier Hurricane est-il rouvert après sa sortie ?
En deux temps. Il a en effet droit à un nouveau procès, mais qui confirme le premier verdict, coupable. Donc Carter reste en prison. Et c'est seulement une dizaine d'années plus tard, en 1985, qu'un nouveau juge, qui refuse d'écouter la chanson pour ne pas être influencé par la verve dylanienne, se saisit de l'affaire et que Carter est finalement innocenté, mais non sans avoir passé près de 20 ans derrière les barreaux.
Ces différentes formes d'injustice sont-elles toujours à caractère raciste ?
Ah, pas toujours, et c'est ce qu'on entend dans cette chanson très électrique de Beach Boys qu'on reconnaît à peine.
Ah oui, on est loin de Good Vibrations, Loric.
Ah, c'est plutôt Bad Vibrations. Hein. L'optimisme de la présidence Kennedy a laissé la place à des tensions, à des violences raciales, mais pas seulement. La jeunesse se révolte, se mobilise notamment contre la guerre du Vietnam.
D'habitude, on associe plutôt les Beach Boys au triptyque un peu superficiel surf, fille, voiture.
Ils reprennent ici une chanson des années 50, Riot in Cell Block 9. Ils changent les paroles pour évoquer la répression policière des étudiants au People's Park de Berkeley, en Californie, mais aussi à Jackson, Mississippi, où deux étudiants noirs sont tués, puis à Kent State dans l'Ohio en 1970.
Lors de notre épisode sur l'Ohio, on avait d'ailleurs parlé de la chanson de Crosby, Stills, Nash & Young. Loric, on peut parler d'un conflit de génération ?
Absolument, et la majorité silencieuse, hier comme aujourd'hui, elle n'aime pas ce genre de manifestation. En 1968, puis en 1972, c'est le républicain Richard Nixon qui est élu président, malgré une mobilisation de la jeunesse qui n'était pas aussi universelle qu'on aurait pu le penser.
C'est plutôt paradoxal quand on pense que Mike Love, qui a initié cette prise de position des Beach Boys, est devenu ensuite un fervent républicain.
Mais oui, le parti de l'ordre qui aspire à plus de répression, sauf bien sûr quand ce sont les soutiens de Trump qui manifestent.
Loric Canton, merci beaucoup. Vendredi prochain, rendez-vous avec Julien Grosso. On parlera JO. America was stunned on May 4th, 1970. They said the students scared the guard, though the troops were
were battle dressed, or martyrs earned the new degree. You best stay out of sight.
Un grand merci à Yann Eligouin à la réalisation, Véronique Rigolet, Adrien Delgrange à la rédaction en chef. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous à l'écoute de RFI.
Dans le cadre de la semaine de la Columbia Paris, RFI Talent présente Calaigno en concert. Retrouvez l'artiste franco-colombien sur la scène du Hasard Ludique à Paris pour la soirée de clôture du festival El Camino le 19 juillet à partir de 20h. Plus d'infos sur lehasardludique.paris.